Interview.
2 jours.
Seconde partie donc de ce débat et de cette interview autour du sujet du matrimoine avec au studio Scarlett Wilson Courvoisier pour son ouvrage Le matrimoine. Nous avons aussi Karine Melzer, chargée de mission au sein de la FRAP, Connie Baker et Gudrun Mattes, membre du collectif Matrimoine Andiwa. Une question par rapport à votre ouvrage, Scarlett. Pourquoi arrêter ou situer cette date de 1830 à 1999 ?
Alors, je fais un chapitre préliminaire où j'essaie d'expliquer comment la société française est patriarcale et a toujours beaucoup de retard. Parce que pour les progrès qui vont être faits, ce sont souvent des femmes qui prennent exemple sur des femmes, notamment pour les avortements, des femmes allemandes, des docteurs allemands, ou anglais, ou américains. Donc, c'est bien, mais il y a toujours un peu de retard. On est quand même l'un des 4 derniers pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes. Mmh. La première étant le premier pays adoptant le droit de vote pour les femmes, 1893, la Nouvelle-Zélande. Donc, on a toujours du retard. Le patriarcat. Bah, y a l'Église catholique, je m'excuse pour celles et ceux qui sont cathos autour de moi. Je ne dis pas du mal, je dis que ça a imprégné la culture française pendant très, très longtemps. Et une partie...
Une boys band très puissante quand même, oui.
Oui, très, très liée. La France était la fille aînée de l'Église. Donc, pouvoir financier, pouvoir diplomatique, pouvoir politique. Ben, ça, voilà. Et quand on regarde l'histoire de l'avortement, de la mise en place de la contraception et de l'IVG, on voit bien que très souvent, ce sont les cathos intégristes qui ont bloqué. Si vous voulez, bon, il y a tout ça à mettre en œuvre. Et moi, j'ai listé tout ce qu'elles ont apporté, vous le verrez dans le livre. Tout à l'heure, je pourrais en donner quelques exemples. Mais je crois qu'il faut conscientiser et il faudrait presque accompagner les gens à cette réflexion. Et je pense que, comme autrefois, où l'éducation populaire, la spécialiste, est à ma gauche, l'éducation populaire est à refortifié par rapport à la responsabilité des citoyens au niveau du local, mais au niveau territorial, région, département, machin, et au niveau national. Parce qu'il y avait plein de réseaux, comme pour l'avortement, il y avait le mouvement Jeunes Femmes créé par les protestantes, mais il y avait aussi, quelles que soient les femmes, moi je montre des femmes laïques ou de toute conviction politique et religieuse, issues de milieux sociaux très très différents, avec des histoires de vie comme celles qu'on a, et je dis qu'elles sont pionnières parce qu'elles ont eu dès 1848, mais même avant 1789, des comportements et des idées qui sont toujours importantes et très, très actuelles. Le droit au divorce, le droit à la justice, on ne parlait pas encore du droit à l'avortement, mais on parlait du droit, comme toutes les femmes de 1848, pour l'émancipation des femmes qui passait par la lutte, le combat contre l'ignorance des filles. Et l'ignorance des filles, elle a été créée par une société patriarcale et par Napoléon. Son code civil de 1804, c'est le même type affreux, le même type affreux qui, en 1802, a rétabli l'esclavage. C'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Bon, je m'arrête.
Alors, je me tourne vers Gudrun, justement, cette conscientisation locale, hein, peut-être, de la femme. S'était-elle opérée lors de ces événements du matrimoine andivois? Est-ce que des hommes venaient voir ces rencontres, ces moments?
Oui, mais bon, ça ne me laisse pas un souvenir inoubliable. Donc, évidemment, oui. Forcément, et un peu évidemment aussi les hommes se posent des questions comment ça se fait que tel ou tel personnage est complètement disparu de la mémoire collective, évidemment, hein, mais je pense complètement comme Scarlett, il faut que les femmes elles-mêmes soient actives et redemande et exige, donc pas seulement demande, voilà, mais exige que les choses changent, sinon ça ne va pas se faire. Et on constate d'ailleurs que ce sont toujours des situations révolutionnaires qui ont fait avancer la cause des femmes. Et notamment, par exemple, le droit à l'avortement, c'était la première fois après la Révolution russe, donc avec la première ministre, femme ministre, Alexandra Kollontai, hein, qui a introduit donc le droit à l'avortement. Ensuite, aussi dans l'Espagne révolutionnaire, en 36, donc avec la grande Frederica Montseny, donc femme anarchiste, qui a en Catalogne introduit le droit à l'avortement. Et chaque fois quand ce mouvement révolutionnaire retombe, pouf, c'est fini aussi.
Après
avec
la répression.
Oui, la répression et le droit de femme, donc ça regresse en même temps.
Connie, vous vouliez rajouter?
Oui, c'était par rapport à cette nécessité d'intégrer les hommes dans ces luttes, parce que on a constaté, et avec matrimoine andivois, mais aussi moi avec des autres groupes féministes, que il y a souvent quand même des hommes qui regardent peut-être l'email ou l'invitation, mais ils se sont pas, voilà, adressés. Et, mais ils sont adressés, mais ils ne se sont pas. Il y a peut-être des fois un peu de jalousie aussi, mais aussi, ils pensent que c'est peut-être un entre eux. Mais voilà, c'est pas ça. Et ça, je trouve que en fait, c'est beaucoup de groupes féministes, ils ont ce problème-là. Et il faut absolument entendre d'hommes qui écoutent. Venez à les réunions sur les thèmes féministes. Et c'est important de partager ça. Et en fait, je connais quand même pas mal d'hommes qui disent que ce sont des féministes. Et voilà, donc heureusement, mais il y a quand même toujours une lacune là.
Justement, je reviens vers vous par rapport à cette déperdition de matrimoine andivois. Malgré tout, est-ce que cela a laissé une marque dans les mentalités, et notamment celle des femmes, sur le territoire? Est-ce que ça a amené sa graine?
Pas en tant que collectif, pas actif en ce moment, mais ça va revenir à un certain moment. Et nous deux, donc chacun dans notre domaine, on y travaille, hein, donc moi, je vais sortir un livre plus grand sur Yvonne Audon, par exemple. Et donc Connie aussi continue à travailler avec les artistes.
Le problème qu'on a... Vivante.
Voilà. le problème qu'on avait aussi, je pense, c'est que c'était très difficile de renouveler l'équipe. Voilà. On était devenus assez spécialistes et assez rodés dans l'expression de notre cause, je pense, mais peut-être un peu trop, parce que les femmes ont toujours ce problème de se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment compétente? Est-ce que je suis vraiment légitime de faire ceci ou cela? Ce que les hommes se posent très rarement, ces questions-là.
Les hommes sont toujours légitimes.
En soi, oui.
D'après eux.
Donc, et là, je veux dire, là, il y a aussi encore... on cherche le truc aussi, hein, comment faire? Comment faire pour ne pas s'épuiser, justement, hein, commencer, mais ne pas s'épuiser, ne pas faire trop, entre guillemets, parce qu'a priori, on ne peut pas faire trop. Hein, c'est, y a toujours donc, un espace énorme à remplir. Mais comment faire que cette dynamique ne s'estompe pas?
Oui, mais je crois que, en fait, je vis ça, que le matrimoine en Liwa a laissé des traces, parce qu'il y a régulièrement des gens qui me demandent, ça fait partie de ces collectifs, je dis oui, qui, voilà, on pose ou arrêt même, mais que ça n'empêche pas qu'on dit à des gens qui sont intéressés toujours que de faire elles. Donc, c'est des femmes, ouais. La même chose, en fait, pas la même chose, mais de trouver un groupe autre que la nôtre qui n'est plus actif. Mais il y a encore des gens qui en parlent avec nous, qui nous parlent. Même il y a quelques emails qui arrivent.
Qui achètent des petits livrets, quoi.
Comme, c'est pour ça qu'on est ici aussi. Mm-hmm. Bah, oui, parce qu'il y a ce mémoire. Et on a encore des panneaux en ville. On espère que... bientôt, ils vont être faits en vrai, en dur, pour que ça reste pour toujours, tout ce qu'on a fait autour de ces femmes.
Karine, justement, par rapport à cette mission que vous opérez au sein de la FRAP, est-ce qu'il y a cette considération de la prise de conscience de la place de la femme? Et pour cela, est-ce que vous avez... des propositions ou des propositions de réflexion, peut-être, et voire peut-être aussi d'action.
En tout cas, à la FRAP, un de nos points d'entrée, c'est de travailler l'esprit critique. Et l'esprit critique, ça passe bien par ça, prendre conscience, savoir déplier la complexité qui nous entoure et bien identifier où sont les problématiques. Donc, évidemment, la question de la place des femmes dans le monde, ça fait partie des questions qu'on doit se poser et pour enrichir son mode de pensée. Donc on travaille en tout cas sur toutes les méthodes qui peuvent permettre aux personnes justement de prendre conscience des choses et de pouvoir s'exprimer aussi, parce que il y a prendre conscience, puis après voilà, le collectif Matrimoine en dit ouais, on va bien, c'est on peut se dire oui, il faut faire des choses, mais après il faut passer à l'action, et donc faut être capable aussi de prendre la parole, de s'exprimer sur des sujets. Donc on essaye de travailler sur toutes ces dimensions. Et après moi, petit témoignage quand même sur le matrimoine en 10 mois, j'en ai entendu parler, ce que je travaille à 10 et que j'en avais entendu parler. Mais je trouve que déjà, il y a eu un glissement de cet endroit qui était très informel, ce collectif qui s'est engagé dans des choses. Et aujourd'hui, à la médiathèque, la mairie de 10 font des choses qui mettent en avant les femmes. Et je pense qu'avant votre initiative du matrimoine en 10 mois, ça n'existait pas ou pas autant. Et donc, le fait d'avoir fait exister... vos expositions, vos ouvrages, tout ça, en fait, ça a aussi donné envie, quelque part, à des endroits plus institutionnels de s'emparer de la question. Et voilà, à chaque fois, c'est des petits pas qui se rajoutent, etc. Mais ça chemine quand même. Et après, je rejoins aussi la prise de conscience à la... Elle est vraiment à faire des deux côtés. Les hommes, ils doivent continuer à prendre conscience que oui, ils ont une place dans la société qui n'est pas normale et qu'ils doivent retrouver une place plus équilibrée. Mais les femmes, elles doivent aussi prendre conscience qu'elles ont toute leur place dans la société et arrêter de rester à l'endroit où on les a mises. Et c'est aussi ce qu'on avait travaillé dans le collectif Femmes ESS. C'était certes redonner la parole et de la place aux femmes, mais aussi chacune d'entre nous en tant que femme, comment on travaille sur nous-mêmes pour oser prendre la parole quand il y a des conférences à la fin, poser des questions, comment on ose prendre des responsabilités dans une association, devenir présidente d'une association et pas juste rester la secrétaire ou la trésorière. Et donc, cette prise de conscience, elle est à faire aussi encore au sein de nous-mêmes parce qu'on est effectivement écrasé par la société patriarcale et que nous-mêmes, ça nous demande un gros effort d'en sortir.
Bah oui. Je voudrais répondre à la même question que vous avez posée à Gudrun. Alors, donc, le niveau national, déjà, c'est toujours plus compliqué. C'est la même problématique, mais c'est plus compliqué. Alors, moi, je suis partie d'une idée personnelle. Voilà. On avait travaillé différentes réflexions. Moi, je suis partie sur l'idée d'un livre. Alors, après, je me suis dit, vu les premiers obstacles que j'ai rencontrés, d'abord pour trouver des archives, pour savoir qui était qui, c'était dispersé, quand il y avait des archives, c'était dispersé partout, donc il y a eu un travail de regroupement, de reconstitution pour faire ce matrimoine. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais aller proposer à l'institution ESS France, qui est l'association fêtière de toute l'économie sociale et solidaire, un partenariat. Fallait avoir du culot pour qu'un individu, qui plus est une femme, aille proposer à une grande institution de participer à la confection du bouquin. Donc, j'ai eu un petit financement pour me rémunérer de mon travail. Tarif universitaire, moins. Bon, peu importe. Et donc, là, je termine. Je leur ai demandé de faire des opérations de presse. C'est un travail qu'ils ont fait, qu'ils ont bien voulu faire. Donc, merci ESS France. En même temps, c'est toujours à minima. Et je sens qu'on arrive à la fin. Donc, il faut que j'invente autre chose. Pendant que je suis encore un peu énergétique, il faut que j'invente autre chose pour aller au-delà et pour percuter d'autres gens. Donc, des rencontres comme celle que vous avez organisée, c'est formidable. Parce que c'est une autre échelle, mais on a les mêmes problèmes. Parce que moi, quand je fais des réunions, depuis novembre 2025, je fais ce que j'appelle la tournée des popotes pour aller présenter mon bouquin. Très peu d'hommes. Branchés sur Internet, aucune question. 6 ou 7 hommes, pas plus par... Donc, il faut faire venir les hommes. Comment fait-on venir les hommes ?
Avec la cuisine.
Merci Yves pour la proposition.
Et je reviens un peu sur cette notion du matrimoine, de cette ESS. Est-ce qu'il est en partie lié aussi avec la prospérité d'un pays ? Est-ce que l'ESS se développe avec un pays en croissance économique, en stabilité ?
Non, parce que le gouvernement actuel, n'ayons pas peur de le dire, le gouvernement actuel a baissé toutes les subventions en ce qui concerne les structures de l'économie sociale, et pas seulement que les structures, des dispositifs extrêmement importants pour que le monde associatif, le monde des assurances mutuelles, soit finalement pénalisé. Les mutuelles vont augmenter. Elles commencent à être impactées. Le monde associatif et les entreprises coopératives sont impactées par la diminution des subventions. Et surtout, au point de vue conceptuel, notre grand président, Et notre grand gouvernement actuel, n'aime pas les corps intermédiaires. Nous sommes un corps intermédiaire, nous sommes la société civile organisée, plus ou moins, mais quand même, on apporte... Eh ben non. L'économie sociale a un problème actuellement,
Elle est liée aussi avec l'économie d'un pays. Quand l'économie va mal, l'ESS faiblit. C'est ça que je constate un peu.
Non, pas nécessairement, parce qu'au contraire, il y a eu des périodes historiques où l'économie sociale s'est beaucoup développée dans des périodes de crise. Et sur les périodes de guerre, d'après-guerre, où il y avait justement des grosses problématiques d'organisation de l'économie, puis après d'apport de soins, d'aide sociale, que ce soit aux orphelins de guerre, aux femmes, etc. Et là, l'économie sociale et solidaire, dans ces périodes de crise, a au contraire repris beaucoup d'importance parce que c'était la seule à pouvoir le faire. C'est pas les entreprises privées qui sont performantes dans ces moments-là. C'est pas l'État qui est occupé à faire la guerre ou à reconstruire le pays. C'est bien la société civile organisée à travers les assos, les coopératives, les mutuelles qui savent répondre. Donc, quelque part, c'est presque un balancier inverse. Après... c'est clair qu'on est dans un monde qui n'encourage plus du tout le collectif. Le principe de base de l'économie sociale, c'est de faire des choses ensemble et que ça soit le monde associatif, c'est le sport, c'est la culture, c'est l'action sociale, etc. Mais c'est le faire ensemble. Une coopérative, c'est se mettre ensemble entre travailleurs pour avoir notre usine ou entre agriculteurs pour mettre en commun un certain nombre de choses. Et qu'on a plutôt une société qui nous pousse à l'individualisme, plutôt qu'au collectif. Et donc, on a une économie sociale qui a tendance à ne plus être montrée, à ne plus être visible. Là où il y a peut-être 30 ans, il y avait quand même un élan pour aussi ces formes de coopération. Donc ça, c'est un vrai enjeu qui reste une vraie bataille à poursuivre.
Alors, pour compléter ce que dit Karine. En fait, ce contexte par rapport à la prise de position contre les corps intermédiaires et la société civile organisée, c'est très grave parce que moi, combien de fois j'entends les gens me dire « mais ça sert à quoi les associations ?» On en est là, à quoi ça sert les associations ? À quoi ça sert les mutuelles ? Voilà. Donc, dénigrement, mais qui toujours plus, rupture des contrats, rupture des subventions, mais aussi dénigrement par rapport à ce que font les associations et leur utilité économique et sociale. Donc, c'est grave.
Justement, là, Connie, par rapport à l'art contemporain, la place de la femme est dénoncée souvent comme amoindrie. Est-ce que c'est aussi cette motivation de fonder Die Residenz, qui est en fait un écho de ce qui existe à Berlin ?
En fait, l'art contemporain, comme tous les arts, c'est aussi un moyen d'en parler, en fait, de tous ces thèmes et de parler aussi des thèmes de femmes, parce que justement, il n'y a pas assez de voix de femmes dans la société. C'est pour ça que je promote des femmes dans les arts plastiques le plus que je peux avec mon petit programme. Mais justement, pour donner des voix à des femmes, là, on met Toporama, le collectif Toporama, qui, elles, deux femmes, ont travaillé justement sur le thème, le rôle de la mère dans la société. Et justement, c'est négligé. En fait, c'est une sorte de fait, comme disait Silvia Federici. They call it love, we call it unwitched work. So, ça veut dire que les autres ils disent que c'est l'amour, mais nous on dit que c'est du travail non rémunéré.
Bien
et
sûr.
Justement, ce problème-là, que ces deux artistes, ils revendiquent aussi par rapport au dans être mère, parce qu'avant c'était plutôt dans le contexte femme ménagère. Mais d'être mère, c'est pas honoré, comme on a dit avant. pour les retraites, plus tard, ça va être difficile pour les femmes. Et donc, là, en fait, les deux, les artistes, ils parlent de ça dans leur travail. Et après, c'est un prétexte d'en parler après avec les spectateurs, spectatrices. Et du coup, je trouve ça, il faut donner des voix à des femmes dans tous les domaines. Et je fais ce que je peux dans l'art contemporain ici.
Alors, dans cette direction, là, notre gouvernement vient d'inventer la procréation financièrement assistée. C'est-à-dire qu'ils ont inventé une circulaire pour donner de l'argent aux femmes pour faire des enfants. Je suis désolée, ça me rappelle Vichy et d'autres périodes pas très heureuses de l'histoire de notre pays. Alors, soi-disant, un pays qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes financiers et qui invente qui monte un système, qui imagine un système pour payer les femmes pour faire des enfants, alors que la période est quand même un petit peu angoissante pour une mère de mettre au monde un enfant à l'heure actuelle.
Pour ce qui est de la future génération, les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que vous sentez aussi un intérêt de celle-ci pour les conditions de la femme? Je peux poser la question à vous toutes.
La question est posée, évidemment, pour les jeunes, encore beaucoup plus, parce que... toute la vie devant elles.
Mais est-ce que vous sentez... Je suis désolé de couper, mais est-ce que vous sentez un intérêt de cette jeunesse pour leurs conditions?
Des jeunes femmes, tu veux dire?
Oui, notamment.
Moi, je pense que c'est très présent, oui. En tout cas, moi, j'ai une fille de 16 ans. Je vois bien la différence entre ma génération. Moi, à 16 ans, à 20 ans, je ne me posais pas la question. On n'avait pas conscience qu'il y avait des différences entre les hommes et les femmes. Et en fait, on les vit, mais on ne les voit pas. Aujourd'hui, ils en sont clairement conscients. Après, ils vivent quand même aussi une période hyper complexe parce que c'est beaucoup plus présent. Ils discutent beaucoup plus des questions de genre, des questions de sexisme, etc. Mais ils vivent aussi un contrebalancier avec des gens qui se renferment dans un certain comportement très sexiste, très masculiniste. Et donc, c'est assez ambivalent comme génération parce que en même temps, c'est là, c'est présent, c'est un vrai sujet. Et en même temps, je sais pas s'ils savent beaucoup mieux bricoler que nous avec tout ça.
Gudrun, tu voulais ajouter?
Oui, là, je crois que la question s'est déplacée aussi un petit peu. Donc moi aussi, j'ai deux filles mais qui sont adultes, qui vivent dans un environnement, qui ont toutes les deux ont eu un bébé. Donc là, parfois, il y a des discussions, il y a des questions, des problématiques beaucoup plus brutaux aussi qui... tout ce spectre de la violence faite aux femmes. Il y a, par exemple, ma fille qui m'appelle en disant « Là, je discute avec une copine, elle est harcelée par son mari qui ne veut pas lui laisser son fils et lui fait, rend la vie absolument impossible. Donc, comment faire ?» Et on a discuté, elle me disait « Maman, c'est un contexte de violence, très clairement. » Et cette génération, la jeune génération, je crois, donc, a beaucoup plus besoin aussi de mettre les mots sur les faits, pour dire clairement, c'est un contexte de violence, c'est un contexte d'oppression, etc.
Et c'est pour ça que connaître, passer par l'histoire et le passé n'est pas chose dérisoire. Parce qu'il y a des fils qu'il faut tirer, des liens. Moi, je crois que les jeunes générations, ça s'est quand même beaucoup amélioré, mais ils ont besoin, effectivement, de mettre des mots pour les conscientiser et que les femmes soient beaucoup plus vigilantes. On n'est plus... Moi, j'ai connu la période, peut-être avec ta génération, où on était explicative. On essayait de, de mettre des mots sur les actions, les choses. Aujourd'hui, je ne le sens pas, mais je ne connais pas beaucoup de très jeunes. Mmh. Voilà. N'ayant pas fait d'enfants, si, quand même, on m'a trimoi.
Est-ce que il y a encore beaucoup de travail au niveau de la prise de conscience locale des conditions de la femme? Et est-ce que ce n'est pas aussi un moteur pour vous de pouvoir vous relancer? Et quelles seraient les pistes à chercher ou à trouver pour réunir de nouveau des personnes pour ces idées?
Pour le matrimoine, en fait, voilà, comme on a dit, bon, on est en arrêt. Et notre but de tout ce qu'on a fait, c'était aussi de plus être nécessaire comme plein de groupes féministes. Donc tout le monde s'appropriait nos idées. Et comme Karine a dit, voilà, elle pense aussi qu'on a sémé et ça grandit, la petite plante par-ci, par-là. Et il faut les arroser, c'est sûr. Il faudrait donner des petits coups, voilà, des terreaux nouveaux, quand on peut et on va le faire. Mais ça ne va pas forcément être ce collectif-là. Oui, j'engage tout le monde qui écoute, qui a envie de faire, le faire, de chercher un petit groupe, de parler entre elles, mais peut-être aussi nous contacter, mais pour que on puisse peut-être diriger à Goudron, qui est encore très actif là, et qui aimerait bien continuer de faire un collectif.
Je pense que tout est à faire. Hein. Donc, on est un petit territoire, mais on a tous les problèmes des grands. Hein. Donc, c'est bien connu que donc, les problèmes des femmes, par exemple, au niveau violence, c'est beaucoup plus virulent dans un espace rural qu'ailleurs.
Oui, hein, exactement.
Hein, parce que problème de proximité des hommes, parce que problème de communication, il faut voir que nos associations féministes font le travail que l'État devrait faire. Ils font un travail incroyable, mais je veux dire, il y a un manque énorme de... Et c'est lié à la situation générale. C'est tout simplement qu'on n'a pas de maternité dans le Diwa. Hein. C'est invraisemblable. Hein. Donc, tout ça, ce qui est imposé aux femmes. Le travail de rendre plus consciente aussi, je vais dire, tout reste à faire. Ce qu'on a décrit, ce sont des germes, hein, ce sont des débuts. C'est quelque chose qui reste, des traces, d'accord, hein, c'est bien. Mais tout est à refaire encore.
Mais ce n'est pas le matrimoine, hein, ça, c'est ça. Tu voulais parler de matrimoine en divorce,
de ce que ça, oui, du travail à faire ou à opérer pour relancer un peu cet aspect du matrimoine. En fait, à l'exemple donc de Connie par rapport à cette plante ou à cette végétation à la cultiver, il y a aussi cette besoin de lumière. Est-ce que il y a aussi cette mise en lumière à opérer dans ces conditions pour faire prendre conscience?
Alors oui. Alors ce que je voulais dire, c'est que la difficulté de traiter les problèmes de violence, c'est que très souvent, le plus souvent, ces problèmes de violence sont internes à la famille. Quand un enfant est maltraité, quand une femme est maltraitée, ça se passe en milieu familial, restreint, fermé. Donc, la femme est doublement prisonnière, c'est la double peine, pour aller... expliquer son cas, porter plainte, trouver des solutions, l'enfant également. Comme c'est des problèmes très, très, très intrafamiliaux, c'est difficile d'intervenir. Donc, là encore, il faut que les femmes soient plus fortes, si possible, pour essayer, mais en milieu rural, en plus, il y a le regard du village, le regard de la société, le regard de l'entreprise et tout ça. Donc, il y a la société s'est fabriquée sur le silence. On tait, on ne veut pas nuire. Et donc, la femme, elle est dans une société qui est en train de grandir en matière de violence, je crains qu'elle n'augmente encore, puisque les gouvernements passent à l'autoritarisme le plus grand et renforcent les comportements virilistes.
Juste par rapport à ça, récemment, cette semaine, il y avait dans Les Pieds sur Terre une émission qui s'intitulait « Agathe et le corbeau », et où un homme harcelait une femme par des mots graveleux. Et dans un moment, il y a le fils qui parle aussi du tabou. Le mot tabou est très fort encore impliqué dans les campagnes. C'est justement
partout,
c'est ce manque d'éclairage qui est à amener, je crois.
Le tabou est partout.
Oui, oui. Je crois que le chemin, il reste énorme, évidemment. On l'a vu, hein, c'est la première fois où sur les élections municipales, il doit y avoir des listes paritaires. Et en fait, ça fait râler. Dire, oh, mais quand même, c'est compliqué de trouver des femmes, etc. Donc, même là où ça fait longtemps que c'est posé, et c'est une loi, et ben, en fait, même ça, ça continue à véhiculer des discours. Oh, en fait, c'est chiant, hein, c'est chiant d'intégrer des femmes, c'est chiant de faire. Alors que ça devrait paraître complètement logique. Donc, le boulot, il reste énorme à plein d'endroits. Et je pense que c'est quand même justement ce type d'initiative très concrète, ce qu'a fait le collectif Matrimoine Andiwa, ce que fait Scarlett en sortant cet ouvrage-là et qui va toucher en premier lieu le monde de l'économie sociale, c'est leur mettre entre les mains, devant les yeux, dans les oreilles, des choses qu'ils n'iraient pas chercher eux-mêmes, mais nous, on leur met. Et après, ils ne peuvent plus complètement faire comme si tout ça n'existait pas. Et je pense que du coup, multiplier ces actions et ces formes d'action très concrètes, c'est aussi ça qui va obliger les gens à avoir ces questions-là en tête.
Très bien.
Oui, Pourquoi ? Parce que derrière tout ça, on n'a pas encore dit le mot, mais il s'agit de partager le pouvoir. Et le collectif Femmes, on avait monté dans des années, 2017, je crois, un espèce d'atelier sur la question du pouvoir dans l'économie sociale. Et c'est très important. Les hommes ne veulent pas partager le pouvoir. Le pouvoir, c'est eux. Alors, c'est le pouvoir sur le corps de la femme, c'est le pouvoir sur l'esprit de la femme, c'est le harcèlement. Après, ça devient harcèlement, et etc. Et la maltraitance générale. Alors, évidemment, la difficulté, c'est que ça se passe en milieu clos. Comment faire ? Et même si un jour il y a une loi, eh bien, elle sera difficile à appliquer.
Je reviendrai bien aussi sur la notion des médias, leur influence aussi sur les mentalités. On a cet exemple qui vient des États-Unis où tout est poussé à l'extrême, hein, dans la vulgarité, dans le sexisme. Est-ce qu'il y a aussi quel est ce sentiment que vous ressentez face à cette actualité ? Je parle à vous toutes. Et est-ce que c'est un moyen aussi de réfléchir et de peut-être trouver créer un certain antagonisme ?
C'est la même question, hein. C'est comme vous disiez, donc c'est la question du pouvoir, hein. Donc les médias, donc ça appartient à quelqu'un qui décide est-ce que je peux publier quelque chose, est-ce que je peux pas le publier. Donc là c'est pareil, il trouve ça fait partie de l'espace public. Et donc les problématiques des femmes ou autres apparaissent ou n'apparaissent pas. Et quelqu'un qui décide de cela, évidemment.
Donc, ça remet en question, et ça ne devrait pas, pour l'économie sociale et solidaire, la question de le pouvoir, par qui, pour qui, pourquoi, comment. Et l'économie sociale a des réponses, déjà toutes prêtes, qu'elle ne met pas réellement en place. Elle oublie la moitié des choses.
Oui, donc elle n'a pas véritablement des réponses. Donc
sur le papier. Il y a toujours 50% de la population, la population féminine, qui, comme par hasard, Donc, ça, on est réduite, si je puis dire, au combat.
Justement, le terme décision, décideuse, vous en êtes un peu attribué. Est-ce que c'est aussi cette fonction ou ce rôle que les femmes n'ont pas, celle de prendre des décisions
Alors, elles commencent. Oui, alors, je termine le tome 2 par des interviews de sept femmes qui ont créé ou qui ont participé à la création de SCOP, et puis d'autres femmes dans d'autres secteurs de l'économie sociale et solidaire, et qui, à mes yeux, puisque j'ai créé une typologie suivant la chronologie historique, je termine par les institutionnelles, décideuses et affranchies. Alors, affranchie, c'est un mot très large pour désigner l'affranchissement par rapport à l'esclavage de la femme dans le cadre des entreprises et des milieux professionnels, mais aussi personnel, dans sa sphère personnelle, et décideuse, parce que quand aujourd'hui on arrive à des présidentes, elles ont le pouvoir, donc elles décident. Ou elles, même si elles ne sont pas présidentes, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui décident. Donc c'est, voilà, ça ouvre le champ et l'horizon.
Si je peux me permettre, mais ça ne suffit pas.
Non, bien sûr.
Ça ne suffit pas, et je veux dire, il suffit pas aussi d'être femme pour avoir raison. Moi, par exemple, je voudrais pas une Margaret Thatcher. Donc, c'est voilà. Donc là aussi, le contexte, le contrôle, etc., le collectif, tout ça, ça s'implique aussi dans cette question comment fonctionner pour être solidaire.
Hein. Oui.
L'émission pourrait durer éternellement, je pense, hein, oui. Vu l'entrain. Nous arrivons quand même au terme du temps imparti. Je voudrais indiquer donc l'ouvrage qui est peut-être accessible à la librairie Mosaïque, j'imagine, Le Matrimoine.
Oui, on peut passer par l'Armatan pour le commander.
Il y en a un exemplaire à la librairie Mosaïque et ils peuvent en commander plein d'autres. Et je vais rajouter que Scarlett va revenir dans le Diwa pour faire une conférence avec l'Université populaire du Diwa le 22 octobre. On vient de caler ça avec eux tout à l'heure, avec l'idée d'inviter aussi le collectif du matrimoine en Diwa sur cette soirée pour aller un peu plus loin sur les questions de matrimoine.
Karine Melzer, pareil, est-ce qu'une actualité avec la frappe ou une main tendue vers le public?
Eh ben, l'actualité de la frappe sur le territoire, c'est qu'on continue à travailler pour qu'il y ait du logement pour les jeunes et des espaces où ils puissent tester, expérimenter, trouver leur voie, leurs envies. Et donc, on espère bien que ce projet aboutisse bientôt à Die. Et donc, pour travailler l'esprit critique, la place des jeunes, parce que la place des femmes, c'est important, mais la place des jeunes aussi.
Gudrun et Connie, pour ce qui est de l'actualité du matrimoine en Diwa, quelle est-elle?
Donc, en ce qui concerne moi, donc il y aura bientôt une publication, très bientôt, hein, une publication donc sur la grande Yvonne Audon. Beaucoup plus détaillé que le petit livre qu'on a déjà créé dans le cadre de matrimoine. Donc là, c'est pas dans le cadre de matrimoine, mais c'est donc l'édition très locale, la Baume Rousse, qui édite ce livre.
Connie, pareil, hein, oui. Il y a en quelque sorte Die Residence aussi, qui est un porte-voix.
Il y a en quelque sorte toute son actualité. Oui, j'ai une résidente, Michaela Zimmer, chez moi, et on va avoir le vernissage le 30, et on va être chez toi bientôt aussi.
Scarlett Wilson, Courvoisier, Karine Melzer, Gudrun Mattes et Connie Baker, je vous remercie toutes quatre d'être venues sur Air Diwa pour débattre sur la notion du matrimoine. Et je vous remercie.
Merci.
Merci.
Thank you.